France Musique.
France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne réussira sûrement pas à me courber tout à fait.
Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne réussira sûrement pas à me courber tout à fait. Oh, c'est si beau la vie, de la vivre mille fois.
Je cite Jean et Brigitte Massin, les musicologues à qui on doit tant de riches biographies de référence sur Schubert, Mozart, Beethoven, bien sûr. Les Massin nous disent « Peu de vies ont été plus douloureuses que celles de Beethoven, mais peu de volontés ont été aussi fortes et peu de tempéraments aussi joyeux à force d'être vivants. » Nous ne devons jamais oublier ni l'un ni l'autre, sous peine de le trahir. Vous savez peut-être, j'avais 13 ans quand ont débuté mes premiers cours de piano. Auparavant, je m'amusais seul sur un piano, un vieux piano chez le médecin du village d'ailleurs, le médecin de village. J'éborgnais Chopin, Liszt, je faisais ce que je pouvais. Je ne savais même pas comment mettre les doigts sur l'instrument alors. Mais là, avec un vrai professeur, c'était une autre histoire. Je balbutiais quelques gammes et, pour le concours d'entrée au conservatoire de Lyon à l'époque, le morceau imposé était le final de la 7e sonate en ré majeur de Beethoven. Je ne savais pas par quel bout commencer. À quoi servait le travail des mains séparées? Marquer le numéro des doigts, vous savez, ce qu'on appelle chiffrer les doigtés. Comprendre tant que possible les tonalités. Vous imaginez bien que Beethoven ne va pas rester tout au long de son morceau en ré majeur. Et puis, qu'est-ce qu'un rondeau? Puisque le final de cette 7e sonate en ré majeur de Beethoven est un rondeau. Bref, je pataugeais. Mais dans mon malheur, je déchiffrais plutôt bien. Et surtout, j'avais une assez bonne mémoire, je retenais rapidement, ce qui fait que je jouais à toute vitesse, sans grand discernement. N'allez pas croire que j'étais satisfait. Je sentais bien que quelque chose clochait, mais je ne travaillais pas. Je ne savais pas travailler. Je jouais comme je jouais du saxophone. Vous savez, je jouais du saxophone déjà à cette époque. Alors, évidemment, au piano, c'est une autre histoire. C'était même au point que le professeur d'alors avait failli renoncer. Et Beethoven, surtout cet énigmatique final en question-réponse, ne se laissait pas apprivoiser. C'était lui qui devait me dompter. Ce final, le voici. Voilà, ce final est composé uniquement de petits motifs interrogatifs, je dirais. Alors, par la suite, je le constaterai. Beethoven, on y entre par sa droiture, sinon on ne le joue pas, ou alors fort mal. Bref, mon malheur du moment a été bénéfique. Je me suis plié à la musique de Beethoven, je l'ai servi du mieux possible. J'ai d'ailleurs réussi le concours d'entrée au conservatoire. Je n'avais que 3 mois de cours à mon actif. Ça n'est pas si mal. Je ne connaissais rien à la littérature du piano. Beethoven m'avait porté chance. Eh bien, pour le remercier, la seconde œuvre que j'ai travaillée a été le final de la 4e sonate. Je lui devais bien cela. Ce final, vous savez, c'est... Tiens, la mémoire me revient. Vous voyez, Beethoven a été mon premier contact avec ma vie professionnelle au piano. Depuis, c'est vrai, je l'ai délaissé, mais à de rares occasions, j'ai pu rejouer une sonate, un concerto, et j'ai été confronté aux mêmes difficultés. Beethoven ordonne et ne se laisse pas jouer avant d'avoir trouvé le ton juste. À chacun le sien, bien sûr. Mais Beethoven exige d'être vrai, sincère, honnête, quoi. Nous venons d'entendre Yves Nat dans le final de cette 7e sonate en ré majeur de Beethoven. Beethoven, son éducation musicale est décousue, guidée par plusieurs petits professeurs. Quant à l'école publique, c'est bien simple, il la quitte à 11 ans. Il s'y ennuyait. Son père, alcoolique, bon chanteur cependant, lui donne sévèrement des cours. De jour comme de nuit, quand il rentre ivre de l'auberge, il réveille brutalement l'enfant pour le mettre au piano. Viennent les vraies études musicales, Bach, Carl Philipp Emanuel Bach avec son art de toucher le piano, et ses études avec un vrai professeur, Christian Gottlob Neffe. Mais Beethoven improvise à sa manière. À 16 ans, Beethoven entre à l'université de Bonn, au lieu de la franc-maçonnerie où se développent les idées républicaines et révolutionnaires. Il se forge sa propre culture. Il nous dit pourquoi. Afin de vivre une vie plus haute et de ne pas tomber tout entier dans la vulgarité. Et plus loin, Beethoven continue. Il n'y a que l'artiste et le libre savant qui portent leur bonheur en eux. La sensibilité et le cœur, ce dernier surtout, est le levier de tout ce qu'il y a de grand. Le cœur. Il est considéré par nos plus grands écrivains, par exemple Goethe, comme une qualité primordiale. À 19 ans, Beethoven enfourche les idées de la Révolution française. Que nous dit-il ?
Qu'est-ce qu'un homme libre ? L'être qui refuse l'obéissance aux ordres du tyran et ne connaît qu'une loi, sa propre volonté.
Beethoven demeurera jusqu'à sa mort fidèle à la liberté, un disciple fervent des vertus républicaines. Voici plus que sommairement ce qui a constitué le futur Beethoven quand, en 1792, il quitte Bonn, au fond, une petite ville de province. Il a alors 22 ans et il s'installe pour toujours à Vienne, capitale politique des Habsbourg et capitale des arts. Beethoven est né Fan et non Von. La particule n'est pas la même. Fan est une particule d'origine flamande et non réellement de noblesse allemande. La différence se fera sentir dans cette société des privilégiés de naissance. Beethoven va devoir s'affirmer par son œuvre. Et pour cela, il est armé. Sûr de son génie, chaque audition publique est un triomphe. C'est l'époque des joutes artistiques dont le public cultivé est friand. Ce public qui attribue même des notes. Karl Czerny, pianiste, pédagogue, futur élève de Beethoven, retrace l'une de ses joutes.
Un jeune pianiste de l'époque qui jouit d'une certaine renommée, un certain Gellinek, va participer à l'une de ses joutes. Très fier de ses talents, il compte bien administrer une raclée à son concurrent. Mais l'affaire tourne tout autrement. Gellinek. Jamais ! Ah non, jamais je n'oublierai la soirée d'hier. Ce jeune homme avec lequel je me suis mesuré, c'est Satan en personne. Jamais je n'ai entendu jeu pareil. Il s'est livré à des variations sur un thème donné par moi. Personne, pas même Mozart, n'égale ce génie de l'improvisation. Il a exécuté d'admirables compositions de sa façon. Il se joue des difficultés et tire du piano des effets que même en rêve, nous n'aurions pas cru possibles. Le triomphant vainqueur s'appelle Beethoven. C'est un jeune homme noirot, très laid, de caractère violent.
Et nous avons entendu le scherzo du trio mi bémol, opus 1, numéro 1, la toute première œuvre du nouveau viennois. C'est la gloire, l'argent. Il a tout, Beethoven a tout. Laquais, cheval de selle, des maîtresses que lui envient les plus beaux officiers. Beethoven nous dit « Mes œuvres me rapportent beaucoup, j'ai plus de commandes
que je n'en puis satisfaire. Pour chacune de mes compositions, je trouve 6-7 éditeurs, plus si je le désire. Il ne s'agit plus avec moi de contrat. J'exige et on paye. »
Voilà une des facettes de Beethoven que j'ignorais. L'artiste sait se monnayer, même s'il ne sait pas compter. Il gagne de l'argent. Il dépense sans réellement savoir ce qu'il a. Tout va bien. Il est cigale. Plus tard, il se révélera un vrai bordélique. Papier, manuscrits jonchant le sol, encriers renversés sur le papier à musique, ses affaires de linge ne sont pas rangées, il y a de la poussière, relief de repas qui traîne. Et puis rajoutons que Beethoven est gauche, mal à l'aise avec son corps, il ne sait même pas danser en mesure. Que penser de tout cela ? Beethoven qui compose une musique violemment tripale par instant, lui, une puissante cigale qui ne sait pas même danser. Alors que toute la musique de Beethoven est marquée du saut d'une pulsation, d'un rythme d'enfer. 1792-93, Beethoven sollicite Haydn pour quelques leçons. Celui qu'il appelle Papa Haydn regarde ce jeune loup aux dents aiguisées, mais il reconnaît son génie. Beethoven montre ses premières œuvres à Haydn, qui lui fait ce commentaire.
Haydn à Beethoven. Vous avez beaucoup de talent, et vous en acquérerez plus encore, énormément plus. Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration. Mais, voulez-vous que je vous dise franchement ? Certes, car je suis venu pour avoir votre opinion. Eh bien, vous ferez plus que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Vous aurez des pensées que personne n'a encore eues. Vous ne sacrifierez jamais, et vous ferez bien, une belle pensée à une règle tyrannique. Car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes et... Mais je crains de vous fâcher. Vous me fâcherez si vous n'achevez pas. Eh bien donc, puisque vous le voulez, je dis que, d'après mon sens, on trouvera toujours dans vos œuvres quelque chose, je ne dirais pas de bizarre, mais d'inattendu, d'inhabituel. Certes, partout de belles choses, même des choses admirables, mais ici et là, quelque chose d'étrange, de sombre, parce que vous êtes vous-même un peu sombre et étrange. Et le style du musicien est toujours l'homme. Regardez mes compositions. Vous y trouverez souvent quelque chose de jovial, car je le suis moi-même. Vous y trouverez une pensée gaie à côté d'une pensée sérieuse, comme dans les tragédies de Shakespeare. Eh bien, rien chez moi n'a pu détruire cette sérénité naturelle. Pas même mon mariage ni ma femme.
Ferdinand Ries, pianiste et compositeur et élève de Beethoven, nous dira plus tard. Haydn avait désiré que Beethoven mette sur le titre de ses ouvrages « Élève de Haydn ». Beethoven ne le voulut pas parce que, disait-il, il avait pris quelques leçons auprès de Haydn, mais n'avait jamais rien appris de lui. Le final de la première symphonie de Beethoven dans la version de Riccardo Chailly. Beethoven ne lui doit rien. Un peu dur tout de même. Regardez le commencement de la seconde sonate de Beethoven pour piano. N'est-ce pas l'expression sous influence des motifs courts dont Haydn, mieux que personne, savait jouer pour les développer ? Mais la gaieté, l'humour, je dirais, du premier mouvement de cette sonate de Beethoven est contrarié par la dépression caractérisée du mouvement lent central. Tout Beethoven est déjà dans cette deuxième sonate. Joie, tristesse et la courbe des lignes expressives du rondo final. La barrière entre ce qui est coutume d'appeler les trois manières de Beethoven est déjà aboli. Vous savez, le Beethoven de la jeunesse, puis celui face à la réalité de sa maladie, et enfin le Beethoven de la maturité. Le Beethoven des premières sonates est déjà dans celui des dernières œuvres. Je fais un bond de quelques années. Regardez les variations Diabelli. N'y a-t-il pas dans ces variations un souvenir des propos si gais de Haydn? Le pianiste Alfred Brendel voit dans ces variations, je cite, un abrégé du comique musical. Ce serait une erreur de ne voir le Beethoven de la dernière période que comme le révélateur de mystères cachés au monde. Chez Beethoven, il y a d'autres exemples de musique de la bonne humeur ou de la colère aussi mauvaise que superficielle, que vous inspire un titre comme « Duo pour deux lunettes obligées », un vrai titre à la Eric Satie. Et celui-ci, la colère pour un sou perdu. Joie digitale, virtuosité, Beethoven s'amuse. C'était Alfred Brendel qui jouait cette colère pour un sou perdu. Et voilà une nouvelle qui, pour ma part, m'a stupéfait. Une nouvelle édifiante sur la volonté de Beethoven à aller à l'essentiel. Alors, je sais déjà, bien sûr, que Beethoven, quand il prend son pinceau, quand il prend son crayon, qu'il pose une note sur le papier, cette note-là est essentielle. Alors vous imaginez, Beethoven, dans son âge mûr, un Beethoven qui souhaitait réviser ses sonates du début et supprimer carrément le scherzo pour beaucoup d'entre elles, y compris même dans certaines sonates plus tardives. Et voilà ce qu'en rapporte Karl Czerny, vous savez, son élève. Beethoven avait l'intention de donner plus de concision à ses premières sonates en réduisant celles qui étaient de 4 morceaux à 3 pour leur donner plus d'unité. Il était aussi déterminé à supprimer le scherzo allegro de la sonate opus 30 numéro 2 avec violon, comme peu en harmonie avec le reste. Ce morceau lui déplaisait beaucoup, et si cette nouvelle édition avait pu se faire, Beethoven aurait donné congé à un bon nombre d'allegro et menuets qu'on aurait fait paraître séparément. Il devait réduire ainsi les sonates suivantes. Opus 10, 13, 14, 31 numéro 1, 31 numéro 2 et d'autres encore. Les derniers, comme les opus 106 et 110, doivent être jugés autrement que les premières. L'objectif était tout d'abord de réduire les menuets scherzo avant d'envisager la suppression complète. Au fond, et là je m'adresse plus particulièrement aux musiciens pianistes, si on y pense, l'enchaînement de l'adagio de cette sonate, donc la fin cet enchaînement avec, justement, ce qui commence, ce final, cette espèce de fleur qui s'ouvre du final de la sonate en la majeure. Je trouve que, pour ma part, je trouve ça bien plus émouvant que terminer ce mouvement lent pour sauter sur cette petite chose guirette au milieu, bon, elle apporte du rythme évidemment, mais je trouve que sans ce petit scherzo, et bien finalement la sonate a une plus grande unité sur le plan expressif, sur le, poétiquement je dirais. Cette sonate en la majeure, puisque je suis là avec la partition ouverte sur mes genoux, pour tout vous dire, eh bien, elle me remémore les quelques difficultés que j'ai eues quand j'ai dû la jouer, la travailler, la jouer, notamment à l'interprétation du tout début, l'énoncé du thème du premier mouvement en staccato, les notes bondissantes du premier mouvement. C'est écrit évidemment comme ça, avec des notes pointées, piquées presque. Et pour moi, qui dans sa jeunesse a été formé par une culture de la musique contemporaine, je dirais, avec mon saxophone et puis tout ça, un point au XXe siècle avait une autre signification qu'à la fin du XVIIIe, au basculement, je dirais, du XVIIIe et du XIXe. Donc j'avais tendance à surarticuler ces phrasés, les réduire en fait à l'indication piquée d'un sèche. Hein. Et ça apportait à ces notes piquées quelque chose de beaucoup trop concret. Et je m'étonnais tout de même que dans l'interprétation des vieux maîtres, enfin Wilhelm Kempf ou plus proche de nous Alfred Brendel, ils interprètent ces points non pas comme des notes courtes et sèches, mais comme un pincement de pids, de cordes, quoi, de violon, d'un quatuor. Ça résonne un peu et ils les jouent avec un peu de pédale. Ça permet de relier les éléments et finalement de donner une unité au motif court. Parce qu'il y a deux notes et puis, pardon, pop, pop. Alors là, ça fait vraiment, c'est vous entendez la petite, c'est vraiment la corde du violon, du violoncelle qui continue à vibrer avec la légèreté de son pizzicato fait avec le doigt. Comme illustration des pizzas dont j'essayais de montrer un exemple, je vous propose d'écouter un extrait du 10e quatuor dit les harpes de Beethoven.
Thank you.
Oui.
France Musique.
Tu ne voulais pas nous parler de la Sainte au Père de Lune ?
Si, mais je me demande si je ne vais pas en parler un peu plus loin, après l'horreur et tout ça et tous les trucs.
Muraro, au piano.
Mais je ne sais pas.
Roger Muraro.
Et voilà. À 27-28 ans, pour Beethoven, c'est le coup de massue. Sournoisement d'abord. Débourdonnement d'oreilles, perte des sons aigus, sifflement le torturant même la nuit. Puis de plus en plus de gêne associée à d'autres maux. Mal au ventre, inflammation des poumons, l'infirmité s'impose. Il devient sourd. À 30 ans, il écrit à Amanda, un ami très cher de Bonn.
Mon cher, mon bon Amanda, mon ami du fond du cœur, avec une profonde émotion, avec un mélange de douleur et de joie, j'ai reçu et lu ta dernière lettre. À quoi puis-je comparer ta fidélité, ton attachement envers moi ? Oh, comme c'est bon que tu me sois toujours resté si proche. Oui, tu es pour moi un ami éprouvé, à part, je le sais. Tu n'es pas un ami de Vienne, non. Tu es un de ceux comme le sol de ma patrie sait en produire. Combien je te souhaite souvent auprès de moi. Car ton Beethoven vit très malheureux, en lutte avec la nature et le Créateur. J'ai déjà souvent maudit ce dernier de livrer ses créatures au moindre hasard, de telle sorte que la plus belle floraison en est exterminée et broyée. Sache que la plus noble partie de moi-même, mon ouïe, s'est beaucoup affaiblie. Déjà à l'époque où tu étais près de moi, j'en sentais les symptômes et je les cachais. Depuis, cela a toujours été pire. Si cela pourra jamais être guéri, il faut attendre. Cela doit tenir à l'état de mon intestin. Pour celui-ci, je suis presque tout à fait rétabli. Mais les oreilles se guériront-elles ? Je l'espère bien sûr, mais timidement, car de telles affections sont les plus incurables. Quelle triste vie est maintenant la mienne. Éviter tout ce qui m'est aimé et à quoi je tiens. Et cela en étant entouré d'individus misérables et égoïstes.
Nous venons d'entendre un extrait du mouvement lent du premier quatuor opus 59, quatuor Razumovsky, de Beethoven. À la lecture de la biographie des Massins, je dois dire que c'est bien plus intensément encore que j'ai réalisé l'horreur et surtout, pour Beethoven, la quête d'un possible remède ou d'un médecin qui puisse enrayer cette progression. Et j'ai été plus encore bouleversé par le Beethoven à l'affût de tous les progrès médicaux, de toutes les techniques nouvelles, des sciences médicales de l'Orient. Il testera les cornets acoustiques pour finir par communiquer au moyen de ses fameux cahiers de conversation. Ces cahiers révèlent un Beethoven pétri de réflexions philosophiques, de notations sur la beauté de la divine nature, l'ordre naturel du monde, le cosmos, quelques idées musicales, et tout cela entouré de plaisanteries assez grossières, de jeux de mots un peu lourdeaux, de caricatures, bref, une sorte, oui, je dirais, un humour du désespoir, un humour salvateur, assez solide et très au premier degré. Mais sa surdité le mène proche du renoncement. Devant l'inéluctable, Beethoven songe même au suicide. Il s'isole à Heiligenstadt, un petit village dans la campagne viennoise. Et il écrit.
Il n'y a plus pour moi d'apaisement à espérer de la société des hommes. Plus de place pour ces délicats entretiens, pour les mutuels épanchements du cœur. Je suis condamné à vivre en exilé. La tentation me vient-elle de me mêler à une société ? Me voilà brusquement saisi d'un sentiment de peur, de la peur qu'on remarque mon état. J'ai été tout près du désespoir. Peu s'en est fallu que je ne mette de mes propres mains fin à mes jours. L'art seul m'a retenu. Il me semblait impossible de dire adieu au monde avant d'avoir donné tout ce pour quoi je me sentais doué. Mes frères, je vous souhaite une vie meilleure, plus heureuse que la mienne. Recommandez à vos enfants la vertu. Elle seule donne le bonheur, point l'argent. Elle seule, avec l'art, m'a sauvé du suicide.
À ce stade, je pense qu'il serait pas mal que tu parles de
Lune. Oui, Max, oui. C'est vrai que je voulais aborder ce sujet qui me tient à cœur depuis tellement d'années. Alors écoutez, c'est une petite parenthèse purement musicale, mais je le signale car il y a peut-être des musiciens qui vont se poser la même question que moi. Hein. Je sais pas, vous connaissez tous évidemment la fameuse sonate dit le clair de lune. On peut pas faire plus célèbre que cette introduction de sonate. Même à quel point elle est merveilleuse, tellement elle est célèbre. Hein. Mais il y a par exemple, voyez-vous, ce il y a tous ces appels et une modulation qui vient en mi mineur. Et là, on arrive à un beau match. Et là, il est écrit ça. C'est absolument terrible. Je pense qu'il y a une vraie faute d'impression. Quand on arrive sur cet accord-là, évidemment, cela concerne les harmonistes. Hein. On a ces appels toujours. Et la main gauche ici fait Do, Si, La. Le Si étant une note de passage. Do, La. Donc l'accord qui est au-dessus, si l'accord suit le passage, ça fait Do, Si. Aux deux voix, ça fait ce qu'on appelle des octaves parallèles, qui, ceci constitue une faute d'écriture. À mon avis, et c'est beaucoup plus beau d'ailleurs, quand on est là, il faut rester. À ce moment-là, la note de passage prend toute sa valeur. Or, on la souligne bourgeoisement par une faute d'harmonie. Je crois que, enfin, je Je pose pas la question. Moi, j'ai trouvé la réponse. Je sais que je ne jouerai pas le texte imprimé. Il y a pour moi une faute ici. Bon, je livre ça à la réflexion de certaines, de certains. On verra ce que ça fera. Ça n'enlève rien à la beauté de l'œuvre, mais tout de même, ça rajoute à cette beauté. Oh, je trouve ça beaucoup plus beau que... Oh, je trouve ça d'une banalité à côté. Bref, bon, je clôt cette parenthèse. Beethoven retrouve son énergie et cette énergie est symbolisée par la troisième symphonie. D'abord dédiée au consul Buonaparte, ainsi qu'il est écrit sur la partition, bien sûr, cette symphonie est un double symbole, liberté révolutionnaire et combat héroïque du compositeur lui-même. De rage et déception, apprenons que Buonaparte s'était proclamé empereur, Beethoven déchire la page de dédicace et la jette au sol. Et Beethoven dit « Désormais, livré à son ambition, il va piétiner tous les droits de l'homme. Il va se mettre au-dessus de nous, devenir un tyran. » Beethoven lui donne alors son vrai nom, Symphonia Heroica. Parallèlement, ses carnets de travail révèlent des esquisses d'une symphonie dite farceuse. Projet abandonné, mais qui souligne l'énergie moins d'un an après les idées de suicide et un humour toujours présent, solidement ancré dans son esprit. C'en est fini des confidences. Il va se débattre et lutter en permanence jusqu'à la fin. Qu'il a toujours aimé va l'aider.
Voulez-vous venir avec moi rendre visite à mes amis, les buissons et les arbres ? Ceux-là ne connaissent ni envie ni trahison. Ici, rien ne me cache le soleil majestueux. Le ciel bleu est mon toit. Oh, que je voudrais ressembler à un arbre. Croître comme lui. Enfoncer mes racines dans le sol. Élever mes fruits en haut.
Pas beau ce qu'ils viennent dire. Oui, la nature est plus qu'avant sa source d'inspiration. Le rythme de la nature, son influence vitale, la nature qui façonne l'homme dont Beethoven ressent la vibration. La musique de Beethoven veut être l'incarnation de la nature. Il y a un aspect de Beethoven qui m'a beaucoup intéressé, évidemment, c'est le Beethoven professeur. Et voici un propos de Karl Czerny.
Pourquoi évidemment ?
Parce que j'ai été professeur moi-même.
Okay.
Pas seulement d'ailleurs, parce que dans l'enseignement de Beethoven, il y a aussi une forme, une indication presque de ce que Beethoven aimait au piano. C'est une indication même pour l'interprétation de ses propres œuvres. J'ai trouvé ça passionnant, en tout cas. Les propos sur l'enseignement de Beethoven qui ont été rapportés par Czerny, son plus brillant élève. Czerny d'ailleurs deviendra plus tard le professeur de Franz Liszt. Le témoignage rapporte la volonté de Beethoven et sa profonde sensibilité à la qualité du son au piano, son expressivité.
Pendant les premières leçons, Beethoven m'occupa exclusivement à faire des gammes dans tous les tons, me montra la seule bonne position des mains et des doigts, alors inconnue de la plupart des exécutants, et particulièrement l'usage du pouce, règle dont je n'ai appris que plus tard à comprendre l'utilité. Après quoi, il parcourut avec moi les exercices de la méthode de Philippe-Emmanuel Bach, attirant surtout mon attention sur le legato que lui-même possédait d'une façon unique au monde et que tous les pianistes de cette époque considéraient comme inexécutable sur le fortepiano. Le jeu haché et à petits coups brefs était encore à la mode après la mort de Mozart, et celui-ci avait pris l'habitude sur les claviers les plus usités d'un jeu qui ne convenait nullement au fortepiano.
France Musique, Muraro au piano, Roger Muraro.
C'est le moment de parler de la sonate Appassionata et des questions qu'elle m'a posées. Tout d'abord, toujours un témoignage de Czerny. Beethoven savait que la musique ne peut être comprise des auditeurs sans qu'un but à cette musique ne vienne en aide à son imagination. Beethoven n'hésitait pas à traiter le public de bœuf ou d'âne quand il ne comprenait pas ses musiques. Évidemment, comment ne pas se faire des ennemis? Alors, Czerny toujours. À propos de l'Appassionata, Beethoven, qui aimait peindre les scènes de la nature, pouvait se figurer les roulements des vagues de la mer pendant une nuit de tempête durant laquelle les appels au secours retentissent au loin. Alors, on est totalement dans la tempête de Shakespeare, hein. Une pareille image peut donner à l'artiste une idée convenable pour l'exécution de ce grand tableau musical. Il est certain que Beethoven, pour beaucoup de ses belles compositions, s'inspirait par ses lectures et ses propres visions. La connaissance de ces circonstances donnerait la clé pour une bonne interprétation de ses créations et faciliterait les moyens d'arriver à les rendre dans leur véritable esprit. Voilà des paroles qui peuvent faire basculer tout ce que l'on serine éternellement sur la métaphysique beethovenienne. On aime fréquemment stimuler une profondeur obscure par un propos alambiqué, alors que la profondeur chez Beethoven est bien souvent dans le ciel et le soleil consolateur. Rien n'est plus énigmatique que le premier mouvement de la sonate opus 110 pour piano. Et pourquoi ? Car Beethoven a simplement écrit, au début de son premier mouvement, con amabilita, avec amabilité, avec sentiment aimable, avec une ouverture en fait vers l'autre. À ce jour, je ne joue toujours pas cet opus 110. Et je dois dire que si je devais le faire, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à me débarrasser de tout ce qu'on en dit, tout ce que l'on affirme sur la métaphysique beethovenienne. Évidemment qu'elle est là, mais à un moment donné, si vous voulez, la simplicité reste l'atout premier pour aborder l'œuvre de Beethoven. C'est un drôle de paradoxe d'ailleurs. Cette amabilita est justement pétrie de simplicité et elle est profondément compassionnelle. On écoute cet opus 110 par Wilhelm Kempff. Mais je reviens à la sonate Appassionata.
Tout d'abord.
Oui.
Pourquoi tu parles de la Appassionata en fait ? J'ai rien dit tout à l'heure. Lorsque tu dis j'en viens à la Appassionata, en fait, ça tombe de nulle part. En fait, à aucun moment, on comprend pourquoi tu parles de celle-là plutôt que d'une autre. Il y en a 32.
Okay. Ah, bah,
oui. Il y a peut-être un chef-d'œuvre sur les 32.
Oh, non, il y en a 32.
Il y a 30 chefs-d'œuvre sur les 32, au moins.
Ok.
Alors, je te réponds à la question. La sonate Appassionata m'a accompagné toute ma jeunesse jusqu'au milieu de mes 30-40 ans. Je l'ai jouée de diverses manières. Quand j'étais jeune, d'ailleurs, je crois que je la jouais très bien. Quand j'étais un peu moins jeune, je la jouais très mal. Puis après, je l'ai jouée pas si mal que ça. Pour quelle raison ? Ben, cette sonate Appassionata a suivi les mouvements de ma vie. Alors, j'aime à y revenir maintenant et essayer d'en faire un petit bilan. Et puis m'apercevoir qu'elle me pose tout autant de questions. Là, il y a un témoignage qui me semble vraiment intéressant de son élève Ferdinand Ries. En général, Beethoven jouait lui-même ses propres compositions avec une inspiration très variable. Toutefois, il restait presque toujours ferme dans la mesure. Par moments seulement, mais rarement, il pressait un peu le mouvement. Quelquefois, dans des crescendo, il faisait un ritardando et retenait le mouvement, ce qui produisait un effet très beau et tout à fait saisissant. En jouant, il donnait tantôt à la main droite, tantôt à la main gauche, selon l'endroit, une expression fort belle et absolument inimitable. Mais il était extrêmement rare qu'il ajoute des notes ou des agréments. Donc, ce premier mouvement de la sonate Appassionata, avec ses changements d'humeur, réclame, je dirais, cette liberté que s'autorisait Beethoven. Les sonorités de l'orchestre, d'ailleurs, y sont suggérées. C'est un ensemble de cordes qui débute à l'unisson. D'où émerge un motif, je dirais, plus humain, plus interrogatif, un moment, presque un moment de solitude. C'est joué vraiment, j'imagine totalement ça, joué par un soliste au milieu de l'orchestre. Vous imaginez un soliste entouré de tous ces gens d'orchestre qui l'entendent et qui fait... C'est un moment de solitude. Et il y a des accords dessous qu'on peut imaginer très bien joués par la clarinette, un basson, que sais-je, enfin. Bref. Et c'est toute l'atmosphère de cette première page de la sonate Appassionata qui va basculer d'un groupe instrumental à l'autre jusqu'aux quatre coups fatidiques de la timbale. Bon, c'est un peu facile, mais quand même, on peut faire un rapprochement avec la cinquième symphonie, bien entendu. Alors, toutes ces petites interventions, je répète, toutes ces petites interventions, entrecoupées de silence d'ailleurs, c'est peu à peu seulement que va s'installer tempo net. Il va s'affirmer par la reprise de tous ces petits motifs variés. Et on arrive à un passage de note répétée. Que je trouve magnifique ce passage, bien entendu, parce qu'il est plein d'une urgence par tous ces appels de la main droite, mais ces petites notes répétées aussi, eh bien, moi personnellement, j'aime les entendre avec de la pédale. Et non pas trop, j'allais dire, instrumentale. Curieusement, là, j'aime jouer du piano. J'aime entendre. Tu vois, entendre une espèce de vibration comme ça, un peu céleste, ces notes répétées, jouer sans pédale, pour moi, les concrétise trop, leur donne trop d'importance. Voilà, je crois. Et en tout cas, ces notes répétées nous conduisent à un deuxième thème, le grand deuxième thème de cette sonate qui commence dans le grave. Alors autant il avait un thème qui commençait en descendant, le deuxième thème le thème lui répondant, le thème plus expressif, prend le chemin inverse, va plutôt en ascendant dans les premières notes. Et ce thème largement chanté, d'ailleurs, c'est presque comme un chœur, ce thème tellement il a un mouvement spacieux. On va dire plus lent quand même, c'est pas ça, mais il a besoin d'espace, même un sentiment de liberté dans l'expression. Mais alors, comme toujours, Beethoven est un sacré cochon parce qu'il ne nous facilite pas la tâche. Sur ce thème ample, voilà, ample. Je ne peux pas le jouer, je joue ça vraiment comme un cochon. C'était pour vous dire que Beethoven nous rappelle à l'ordre. Avec un mouvement incessant de triolet à la main gauche. Parce qu'il fait que le sentiment, n'est-ce pas, d'ampleur, l'espace qu'on peut avoir dans ce deuxième thème, est, j'allais dire, un peu contrarié par la ténacité du rythme. Vous voyez, c'est une liberté qui est toute mesurée. Et ça ne nous facilite pas la tâche, nous les pianistes. Mais il y a une anecdote que je trouve... Une anecdote, d'ailleurs, ça n'en est pas une. Il y a un fait rapporté toujours par son élève, Ferdinand Ries. L'un et l'autre se promenaient là, dans les bois, dans la région de Vienne. Et au cours de cette promenade, Beethoven avait trouvé un thème. Et Ferdinand Ries nous dit un thème qu'il s'était mis à fredonner, quelquefois presque à hurler à part lui, montant et descendant constamment, sans chanter de note précise. J'imagine, en plus, j'ai remarqué que bien souvent les malentendants ne calculent pas toujours l'exactitude de leur hauteur de note. Alors imagine Beethoven pris dans sa folie du... Si on mimait par la voix le « ça devait être quelque chose de tout à fait terrible. Et Ries se débrouille pour lui dire « Mais comme je lui demandais ce que cela voulait dire, il répondait « Il m'est tombé dans l'esprit un thème pour le dernier allegro de la sonate, opus 57, la Passionata justement. » Dès que nous rentrâmes dans l'appartement, Beethoven se mit au piano sans même ôter son chapeau.
Je m'assis dans un coin et il m'eut bientôt oublié. Alors il se déchaîna pendant au moins une heure sur le nouveau et superbe final qui termine maintenant cette sonate. Enfin il se leva, fut surpris de me voir encore et me dit « Je ne peux vous donner de leçons aujourd'hui, il faut que je travaille encore ».
Je prends les quelques mesures qui précèdent le final de la Passionata.
C'est sûr que tu as choisi une des sonates où attaquer directement par le troisième, c'est un peu étrange.
Bah oui, mais tant pis.
Pas tout jouer ?
Ah bah, tu feras, mais si, puis là, un clavier aussi, la puce 109, 110 aussi, je peux faire.
Je devrais savoir. Je
fais juste les. Juste quelques mesures.
Le final de cette sonate appassionata.
Tu me dis quand je peux y aller.
Je me souviens m'être fait gronder sévèrement à l'époque, car je le jouais très vite, très très vite. Germaine Mounier, qui était à l'époque l'assistante, professeure assistante d'Yvonne Loriot au conservatoire, avec qui donc je prenais quelques leçons, avait beaucoup insisté sur l'articulation de chaque note dans l'élan par vagues successives de ce mouvement. J'avais partiellement compris. Il en était résulté un exercice comme une étude à la Czerny qui finalement n'avait plus rien à voir avec un final de sonate appassionata, une œuvre qui devait raconter l'histoire que nous avait rapportée Beethoven, un souffle grondant sous les appels angoissés. « etc., etc. C'est parti pour 8 minutes, parce que cette sonate, c'est un défilé, un ruban de double croche du début à la fin, sans même le sentiment de pouvoir respirer. On est la tête à peine hors de l'eau dans cet océan. Et pour pouvoir la restituer, seule une organisation parfaite de tous les éléments de cette sonate peut restituer cette fresque dramatique. C'est drôle tout de même. Je fais un petit écart. Voilà un compositeur désordonné, peu soucieux de ses affaires, de son ménage, les papiers manuscrits jonchant le sol, ses vêtements tachés, hurlant après son personnel de maison quand il faisait un peu de rangement, et qui, dans les faits musicaux, posait chaque note avec la volonté farouche de dominer sa pensée et le cadre pour la retraduire. Pour l'interprète, la musique de Beethoven se sculpte, j'ose dire, avec effort. C'est un compromis constant entre le sentiment et le contrôle de sa réalisation. Et je reviens à ce que j'ai dit au commencement de mon émission, la musique de Beethoven m'impose une verticalité, une droiture. Nul autre a exigé autant. Bon, après ces belles paroles, il faut que je me mette au piano pour essayer ce final de la sonate Appassionata. Alors, si vous voulez embarquer avec moi sur ce radeau de la Méduse et vous êtes prêt à vous faire chahuter par les flots beethoveniens ou ceux de Muraro, eh bien, voyons ce que ça donnera.
Bon, allez, je refais.
À votre avis, ça n'est pas seulement démonstratif listien, il y a quand même un engagement, une volonté.
Lorsque j'ai travaillé la sonate opus 106, dite Hammerklavier, Yvonne Loriot développait ce propos. Pourquoi si vite ? Pas si sec, violoncelle à gauche, temps maîtrisé, très lié et grain expressif, faire parler le silence, même si la sonorité est prolongée par la pédale. Comme des appels, et cette indication magnifique, attention, ce n'est ni Liszt ni Mendelssohn, les styles dans lesquels je pouvais basculer. Mais c'est un vrai son beethovenien, intense, tendu, sans respirer, avec des éclairages, des pesanteurs, des lucarnes et une immense charité. Quand je relis cela aujourd'hui, noté sur ma partition, heureux temps où le papier musique, la partition était encore un livre, le livre, ben je comprends mieux et je suis très ému. Sacrée Yvonne. Wilhelm Kempff nous dit qu'il faut une maîtrise totale de toutes les variations techniques imaginables. Mais Kempff allait bien au-delà de ces considérations. Un jour, à l'occasion d'une masterclass que donnait maître Kempff au conservatoire, ce propos m'a été rapporté par Yvonne Loriot. Un étudiant jouait la sonate opus 109. Et visiblement, il n'avait pas accédé à la hauteur du propos. La sonate terminée, Kempff, songeur, demande alors au jeune pianiste d'ouvrir la fenêtre et de décrire ce qu'il y voyait. L'étudiant s'exécute et dit « Mais il y a la cour, les étudiants qui marchent, la musique dans toutes les salles. » Et Kempff lui répond « Mais, mon ami, ne voyez-vous pas que le ciel est bleu, que le soleil brille, que les arbres sont verts ?» Puis Kempff se mit au piano pour jouer ce thème final de la sonate. La leçon n'a pas été comprise, paraît-il. L'élève a bougonné. En 1785, Schiller a composé ses vers de l'hymne à la joie, dans lequel Beethoven reconnaît toutes ses pensées humanistes. Il les exposera dans son final de la 9e symphonie.
Joyeux comme ces soleils volants, à travers le somptueux dessin du ciel, hâtez-vous, frère, sur votre route. Joyeux comme un héros vers la victoire. Soyez enlacés, millions, ce baiser au monde entier.
Mes émissions touchent à leur fin. Depuis 3 années, j'ai partagé avec vous mes réflexions, mes doutes, beaucoup de doutes, peu de certitudes, ne sachant pas vraiment ce que cela pouvait apporter aux uns ou aux autres. Mais une chose demeure, à moi, la richesse de ce que j'ai appris. Un univers pour ainsi dire tout neuf. Et pourtant, bien qu'ayant ouvert tant de livres, tant de musique à déchiffrer, plus j'avance, moins j'ai l'impression de savoir quelque chose. C'est rageant. Car si la musique est belle, elle est plus encore quand on sait pourquoi et comment les grands hommes y ont passé leur vie, l'ont quitté très prématurément pour certains, en nous laissant leur témoignage fait de grandeur, de petitesse, de messages qui vont au-delà de la beauté, d'exigence, l'idéal. Connaître leur vie m'a permis de partager leurs inquiétudes, joies et souffrances livrées par l'écriture. Ils sont vivants, la mort s'éloigne de nous en les jouant, en les écoutant. Et demain, la 9e sera encore l'expression de notre quête d'idéal fraternel, de joie et croyance en la beauté de la vie. Du moins, j'espère. Remercions chaleureusement l'École normale supérieure de musique qui nous a accueillis ces dernières années pour l'enregistrement de nos émissions à la salle Cortot. Elle a mis à notre disposition un beau piano, une magnifique salle pleine de charme. Merci. Un grand merci aussi à Guillaume de Tonquédec qui a prêté sa voix aux différents textes des grands hommes. 1000 remerciements à mes fidèles collaborateurs, Xavier Carrère, attaché de production, Max James, réalisateur. Ils n'ont pas été tendres, mais tellement bienveillants. Je n'oublie pas de remercier bien sûr l'équipe technique, Christian Laondès, Morgane Danan et Sidoine Lynch qui ont assuré ces belles prises de son. Vous pouvez retrouver le détail de la programmation musicale sur la page internet des émissions Muraro au piano. Vous pouvez bien entendu réécouter tous les épisodes sur le site de France Musique et l'application Radio France. J'ai été ravi. Vraiment très heureux de partager ces moments avec vous. Et je voulais vous dire... Au revoir.
À réécouter sur francemusique.fr.